En juin 1971, en pleine guerre du Vietnam, le président américain Richard Nixon lançait la guerre contre la drogue. Un demi-siècle plus tard, le bilan est clair, les prisons américaines sont bondées, les États-Unis doivent toujours avoir le taux d'incarcération le plus élevé du monde, et la drogue y est partout. Bref, cela ne marche pas, mais c'est pas grave, faire la guerre à la drogue, c'est porteur électoralement. C'est l'éternel problème, en fait, des politiques sécuritaires. Elles ne peuvent que pousser à la surenchère. Si 10 caméras de vidéosurveillance ne suffisent pas, on en mettra 2 de plus. C'est bien sûr au nom de la croisade contre le narcotrafic que Trump a décidé de kidnapper le président vénézuélien et de restaurer la démocratie. Les preuves de l'implication de Maduro dans un tel trafic, eh bien on les exposera plus tard ou on les fabriquera s'il le faut, et sans doute le faudra-t-il. Même si, ne nous voilons pas la face, les élites politiques latino-américaines sont gangrénées par la corruption et le narcotrafic, les cartels étant passés maîtres dans l'art de financer des campagnes et de se payer des connivences. Et ce ne sont pas les Mexicains ou les Colombiens qui me contrediront. L'intervention américaine n'a pas grand-chose à voir avec la lutte contre la drogue. Elle est une façon de rappeler au monde entier que les États-Unis sont bien décidés à faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, et là où ils en ont besoin, sans passer sous les fourches codines du droit international. Ils le firent au Panama en 1989-90, quand ils chassèrent du pouvoir le président Noriega, accusé d'être un dictateur impliqué dans le trafic de drogue. Il faut dire qu'ils le connaissaient bien, puisque Noriega était un informateur important de la CIA et que le commerce de la drogue auquel il s'adonnait servait à financer les mouvements dits anticommunistes d'Amérique centrale. Bref, Noriega était devenu un employé gênant. Qui regrettera Maduro ? Pas grand monde. Le Venezuela est à la dérive depuis bien longtemps et pour de multiples raisons, dont toutes ne se résument pas aux manigances des États-Unis, puissance impérialiste qui ne veut pas de dissidence dans son arrière-cour. C'est le problème des anti-impérialistes bas du front, pour qui le grand Satan est à l'origine de tous les maux. Il ne s'agit évidemment pas de nier l'influence importante des actions menées par des puissances étrangères sur le destin de certains États. Nous en savons quelque chose ici avec notre politique africaine. Mais ce mode d'explication permet de faire l'impasse sur les dynamiques internes favorisant les dérives. Même sous le charismatique Hugo Chavez, il y a plus d'une décennie, des voix vénézuéliennes s'élevaient contre l'accaparement du pouvoir par des politiciens véreux, des syndicalistes aux ordres, autrement dit des apparatchiks. Le schéma est simple et classique. Le parti au pouvoir hégémonique devient pour les opportunistes le lieu par lequel penser leur promotion sociale. Et le changement social initié par en haut, très centralisé, a généré de nouvelles élites entrant inévitablement en conflit de légitimité, notamment entre elles. Nouvelles élites bureaucratisées d'un côté, vieille élite issue des mouvements sociaux de l'autre. Et au milieu, le leader charismatique. Maduro n'est pas et ne fut jamais Hugo Chavez. Si les États-Unis sont intervenus, c'est parce qu'ils savaient que le pouvoir de Maduro ne tenait plus que sur un fil, qu'il ne pouvait compter sur personne, pas même visiblement sur son armée et ses services de renseignement. Tout le monde se demande donc quelle sera la prochaine étape. On pense à l'Iran, évidemment, ou encore à Cuba, mais ce sont deux pays où le sentiment national depuis des décennies s'est construit contre l'impérialisme américain. Reste le Danemark, histoire de récupérer le Groenland. Non, plaisanterie mise à part, j'ai le sentiment que cette intervention au Venezuela est le fruit d'un compromis entre les isolationnistes comme Trump, pour qui les États-Unis ne doivent pas être les gendarmes du monde, et leurs ennemis jurés, les néo-conservateurs qui, au contraire, considèrent qu'il revient à l'Amérique d'imposer la démocratie libérale et le big business à toute la planète.
Alternant FM.